Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être fidèle au rendez-vous de Mélomanie. Bienvenue à tous ceux qui découvrent ce magazine consacré à l'actualité musicale toulousaine et régionale. Chaque semaine, nous présentons, commentons ce que Toulouse et notre région proposent dans le domaine de la musique classique et de l'opéra. Dans quelques instants, nous allons revenir sur les concerts de la semaine passée. Puis en seconde partie de ce numéro, nous jetterons un œil sur ce que l'agenda de la suivante nous réserve. Nous parlerons aussi de la saison de l'Orchestre National du Capitole qui a effectué sa rentrée mercredi à la Lograin. Pour m'assister dans cette vaste tâche, les mélomaniacs qui ont répondu à mon invitation et qui participent à cette émission. D'abord, celle qui devient elle aussi une fidèle de ce studio, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale du journal La Dépêche. À ses côtés, Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Dans ce studio également, de nouveau un invité de marque, puisqu'après Paul-Arnaud Péjouan et Emmanuel Gaillard, c'est Thierry Dargoubet, délégué général de l'Orchestre National du Capitole qui nous fait l'honneur de sa présence à Mélomanie. Merci beaucoup et bienvenue à tous les trois. Nous allons sans plus tarder nous replonger dans l'actualité de la semaine écoulée pour la première partie de cette émission.
Mélomanie, retour arrière.
Et pour commencer, nous allons revenir sur un concert qui a eu lieu samedi dernier au Théâtre du Capitole. Il avait la particularité d'être gratuit, parce que donné lors des Journées Européennes du Patrimoine, lors desquelles le Théâtre du Capitole, comme d'autres beaux bâtiments anciens de Toulouse, était ouvert à la visite. À 20h, il y a une conférence sur l'histoire du théâtre. Et à 21h, c'était donc le concert donné par le jeune ténor Kevin Amiel. Nous avions annoncé l'événement lors du dernier numéro de Mélomanie et diffusé un extrait où Kevin Amiel interprétait un air de l'Arlésiana de Chilea. Anne-Marie Chouchan et Robert Pénavert, vous étiez tous deux au Capitole samedi soir. Comment s'est passé ce concert et quelles sont vos impressions après avoir entendu Kevin Amiel, qui, je le rappelle, est né à Toulouse et a grandi dans notre région?
D'abord, un immense succès, un public très très nombreux, très diversifié, très mêlé, avec des familles qui étaient vraiment ravies qu'on lui offre une soirée avec un ténor dans ce beau décor du Théâtre du Capitole. Donc vraiment, le public était heureux. Il y a eu des bis. Kevin Amiel est apparu comme un jeune ténor plus que prometteur. C'est vrai qu'il a un beau matériau vocal, assez solide, un aigu notamment très très solide. Et bien sûr, il s'est attaqué quand même à trois airs qui étaient des airs, des tubes de l'opéra, en hommage à Luciano Pavarotti, disparu il y a 10 ans. Et donc, c'était quand même un programme exigeant, disons. Je pense qu'il s'en est plutôt bien sorti, mais que c'était très dur à soutenir toute la soirée. Mais ce jeune ténor, s'il prend garde à veiller aussi à ne pas faire une carrière un petit peu trop prématurée, disons, il n'a que 28 ans, je crois qu'il a plus qu'un bel avenir devant lui.
Oui, justement, à 28 ans, est-ce qu'il est vraiment complètement mature vocalement aujourd'hui? Est-ce que sa tessiture est suffisamment complète et homogène pour aborder des grands rôles du répertoire? Parce que bon, j'ai vu qu'il allait jouer Hoffmann à l'Opéra de Dijon en décembre, à 28 ans. Je ne sais pas s'il y a des précédents d'ailleurs de grands ténors qui ont commencé si jeunes dans des rôles aussi difficiles et aussi importants. Robert Pénavert, vous qui êtes une bible de l'opéra.
Alors, ce qu'il y a de clair, c'est que le meilleur de cette voix, nous le trouvons dans le registre aigu. Il a parfaitement accroché, très en place, très puissant. Et d'ailleurs, il joue carrément avec ce registre aigu dont il est parfaitement sûr. À tel point que dans le dernier bis, qui était la Donna Immobile de Rigoletto, il s'est permis non seulement de faire une variation à la fin qu'il a fait monter jusqu'à lu dièse, mais avec... Bon, c'est pas écrit, hein, mais peu importe, il a montré qu'il savait faire ça. Et puis ensuite, avant de donner le dernier si bémol, et puis il s'est arrêté. Il s'est arrêté, il a fait arrêter le pianiste, il a regardé la salle qu'il dominait, et bien sûr, en disant « attention, vous allez voir ». Et il a donné une note qui a complètement emballé la salle, il a eu droit à une véritable ovation. Donc, de ce côté-là, effectivement, il est très très sûr de lui. Est-ce que c'est pour ça qu'il a signé Hoffmann à Dijon d'ici la fin de l'année? Ça, je ne sais pas du tout. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les ténors sont assez rares, contrairement aux barytons, aux sopranos, etc. Et donc, dès que les directeurs de théâtre entendent un ténor qui a de l'aigu, parce que malheureusement, on est obligé de reconnaître que c'est ce qui paye l'aigu, et c'est la note finale, c'est, bon, voilà, c'est presque une tradition, mais il ne faut pas oublier que les compositeurs ont écrit une partition qui, les trois quarts du temps, s'échelonne sur deux octaves, hein, donc on ne chante pas que de l'aigu. Et effectivement, à 28 ans, moi, je n'ai pas connaissance de ténor qui ait osé aborder Hoffmann. Vittorio Grigolo a abordé ce rôle, il avait 34 ans. Roberto Alagna, plus tard, et il m'a dit, bon, ça va, c'est bon, je l'ai fait, je ne vais pas m'aventurer trop longtemps dans ce rôle qui est extrêmement long, extrêmement central, avec une tessiture finalement très difficile à tenir. Et je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, la technique vocale de Kevin Amiel lui permette de se sortir de cette affaire sans embarras. Alors, Dijon est une petite salle, certes, mais la partition est la même quand même. Il chante avec un orchestre, bien sûr. Voilà. Et en plus, avant ça, il va chanter une réduction de Siegfried. Bon, alors, c'est une réduction, ok, c'est pas le rôle entier, bien sûr, hein, et c'est pas le rôle tel qu'écrit par Wagner, mais en fait, c'est une tessiture très centrale. Moi, je sais pas, j'espère qu'il a un coach qui s'occupe de lui de très très près et qui suit sa carrière de très près, mais il me paraît aller un peu trop vite.
Et vous voulez dire, quand vous parlez de ses aigus, qu'il se grise parfois un peu de son extrême aptitude à monter et à tenir.
Mais Eric, c'est grisant.
Quand
vous avez dans la gorge une note qui met à genoux 4000 personnes, ben, Pavarotti, qu'est-ce qu'il faisait? Et tous le faisaient. À partir du moment où ils étaient souples dans l'aigu, ce n'était pas le cas de tous les ténors. Mais lui, à l'évidence, oui, il s'amuse avec son aigu. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien, et Anne-Marie a commencé à le dire tout à l'heure, ce qui est très vrai, c'est que lors de ce récital, il y avait combien de personnes?
La salle fait 1200 et quelques places. Il y avait au moins 1100 personnes, peut-être. Voilà.
Oui, donc c'était presque plein.
Vous imaginez, c'était presque plein.
Ça, c'est formidable, bien sûr.
Et beaucoup entendaient de l'opéra en direct pour la première fois. Et ils ont été charmés.
Donc c'est ce qu'il faut retenir de
mais
ce
c'est
concert.
Ce qu'il faut... Moi, je trouve ça très malin de faire ce genre d'opération. Alors bon, on vient de faire avec Anne-Marie une petite... On a dévié sur les qualités vocales, mais enfin, peut-être que ça n'intéresse personne. Mais l'opération en elle-même, qui avait été précédée d'une magnifique présentation de l'histoire du Théâtre du Capitole par Jean-Jean Groslot,
cool,
eh bien moi, je trouve que c'est une très très bonne opération. Le Théâtre du Capitole est à la recherche, tout le monde le sait, comme tous les théâtres lyrique de public. C'est une occasion en or. En plus, Christophe Christy est venu présenter de manière très simple, et je serais tenté de dire, Anne-Marie, je parle sous votre contrôle, de manière très bonhomme, et est venu présenter le programme, le chanteur, etc. Ça a plu. Ça se sentait que ça plaisait, ça. Donc, pour moi, c'est une très bonne opération.
Et oui, quant à Kevin Amiel, écoutez, on va suivre sa carrière. Je pense qu'on aura l'occasion de le revoir au Théâtre du Capitole, a priori, dans les saisons qui vont venir.
Je pense, en y réfléchissant, après ce qu'a très bien analysé Robert, c'est qu'aussi, il ne faut pas qu'il se laisse griser, parce qu'actuellement, on devient un petit peu cocorico en France, je dois dire. Soit on dit, il ne faut pas de chanteurs étrangers, bon, mettons, il faut essayer de donner leur chance aux chanteurs français, mais les chanteurs français aussi, eux-mêmes doivent être prudents, et puis on ne doit pas leur faire croire que tout leur est ouvert sans problème, uniquement parce qu'ils sont français. Je pense qu'aussi, qu'il faut qu'ils fassent parfois leurs preuves ailleurs, et qu'ils se confrontent peut-être aussi à des scènes internationales où ils peuvent avoir une évolution de leur carrière, parce que lui, d'après ce qu'on a vu de sa jeune carrière, il va chanter à droite, à gauche en France, où c'est vrai, on est en quête de chanteurs, de jeunes chanteurs français, mais c'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour faire une carrière et pour surtout préserver sa voix.
Robert.
Donc, simplement, on a oublié de mentionner que c'était le chef de chant de Capitole, Robert Gonella, qui était au piano et qui est un accompagnateur et un connaisseur de voix absolument remarquable.
C'est bien de l'avoir précisé. On referme la parenthèse Kevin Amiel au Théâtre du Capitole. Donc pendant ce temps, le festival piano jacobin se poursuit. Il y a encore toute la semaine prochaine pour aller écouter de la belle musique et de grands pianistes. On parlera des concerts à venir en seconde partie d'émission et dans quelques instants de celui qu'a donné Elisabeth Leonskaya avec l'Orchestre National du Capitole mercredi. C'était en partenariat avec Piano Jacobin. Il y a eu d'autres concerts les derniers jours. Je crois que je suis le seul à avoir assisté à un d'entre eux. Je vais en parler. C'était le concert de Simone Dinnerstein vendredi dernier. La jeune pianiste américaine a joué un programme d'œuvres de Philip Glass et Franz Schubert. Alors déjà en soi, mettre ces deux compositeurs au même programme, c'était pour le moins osé. Alors elle a osé encore plus, si je puis dire, parce qu'elle n'a pas scindé son concert en deux parties distinctes. L'une dédiée à Philip Glass, l'autre dédiée à Schubert. Non, elle a joué en alternance des morceaux de l'un et de l'autre pour les proposer au public en miroir, en quelque sorte. Alors, c'était souvent brillant. Moi qui n'aime pas trop Philippe Glass, d'ailleurs. J'ai aimé ce qu'elle en a fait. Elle a joué de lui, il y a eu Métamorphosis One et plusieurs études. En alternant avec les 4 impromptus de Schubert, elle a terminé son concert avec la sonate des 960 du même Schubert. Donc, beau concert avec un piano qui chantait. Une interprétation qui, m'a-t-il semblé, a fait le bonheur de la plupart des personnes présentes. Alors, je vous propose qu'on écoute maintenant Simone d'Hennerstein, justement dans l'exécution d'un impromptu de Schubert le plus connu, le troisième. Et puis après, je voudrais qu'on discute tous ensemble de la musique de Philippe Glass et de cette idée de l'associer à celle de Schubert. Le troisième impromptu de Franz Schubert, interprété par Simone d'Hennerstein, un des 4 qu'elle a joué vendredi dernier au Jacobin. Et je reviens donc à Philippe Glass. Alors, est-ce que c'est un compositeur dont la musique vous touche? Et je pose la question à vous trois. Thierry Dargoubet, qui aimait Philippe Glass.
Moi, j'étais assez sensible aux premières productions de Philippe Glass. Mais je dois dire, j'ai été très déçu par la dernière création qu'il a faite. C'était il y a à peu près 12 mois, à l'Orchestre de Paris. Une création qu'il avait écrite pour les Sœurs Labeck. Et j'avais trouvé le discours, finalement, assez creux, voire un peu vain. Voilà, donc je suis navré de dire des choses comme ça.
Oui, oui, alors moi j'ai pu apprécier comme vous, je crois d'ailleurs, on en parlait avant l'émission, ce qu'il a pu faire dans les années 70-80 par exemple,
ça,
notamment des pièces pour piano. Il a écrit des musiques de films, et la musique du film Mishima, son fameux trio à cordes là, que beaucoup de gens connaissent sans savoir que c'est de lui. Et puis il avait fait la musique aussi du film Kundun de Martin Scorsese, qui a pété le plus grand succès de Martin Scorsese. Anne-Marie Chouchan, vous avez un petit peu étudié le cas Philippe Glass, je crois.
Écoutez, je ne suis pas tout à fait plus une spécialiste de Philippe Glass parce qu'on n'entend pas très souvent de sa musique quand même, on la connaît. Bon, c'est vrai que c'est un courant qui s'est développé au XXe siècle, aux États-Unis notamment, où l'on a voulu retrouver une musique, même dans le domaine classique, qui ne soit pas la musique atonale de l'école de Vienne, de Schoenberg, qui était devenue un peu dictatoriale aussi, avec ses règles qu'il fallait respecter absolument. Donc, ces compositeurs ont recherché peut-être de revenir à quelque chose d'une musique plus populaire, on dira, je crois, le jazz peut-être, etc. Et avec cette base qui était à l'origine des musiques populaires, le rythme surtout, et que finalement, ils ont ensuite créé des œuvres qui étaient à la fois classiques, à la fois plus classiques, parce qu'en fait, d'après ce que on sait, c'est que Philippe Glass, il n'a jamais écrit de la musique atonale. C'est de la musique tonale, mais une musique qui a des pulsations, surtout des pulsations rythmiques. On l'a appelé minimalisme
répétitive,
ou répétitive.
C'est
donc c'est de chercher une musique qui peut avoir ses sources dans le jazz ou dans des musiques. Et donc, ce qu'a fait la jeune pianiste
Jacques Coppet. Voilà, le jouer en alternance avec Schubert.
Oui, parce qu'elle a voulu faire, quelque chose justement sur le rythme, en fait. Le rechercher au plus profond de la notion de rythme dans deux compositeurs très différents. Mais en même temps, Schubert aussi, il avait puisé dans le répertoire populaire à travers ses leaders notamment, etc. Donc, on peut aussi trouver des sources parce que c'est vrai que la musique sérielle du XXe siècle, l'école de Vienne, après jusqu'à Boulez, c'était la gamme chromatique, la fameuse gamme chromatique, il ne fallait pas en sortir, il fallait donc la gamme 12 sons. 12 sons. Donc il fallait absolument ce système l'appliquer tel quel, c'était très abstrait. Là, c'est une musique qui n'est pas abstraite, qui recherche des pulsations peut-être plus proches de la danse, du jazz, des musiques populaires, mais on n'en entend pas beaucoup. C'est un compositeur quand même à connaître dans l'histoire de la musique. Hein, c'est, bon,
même si parmi on ceux qui sont toujours vivants, oui, évidemment.
Oui, il est toujours vivant, puisqu'il est né en 1935 ou 37.
Plus ou moins 75 ans, je crois, Philippe Glass, à peu de choses près. Bon, Robert Pénavert, je ne vous en parle pas, parce qu'apparemment, Philippe Glass, c'est pas trop votre truc.
Non, je n'ai pas trop d'avis structuré là-dessus, je suis désolé, joker.
Alors, on va passer au concert de rentrée de l'Orchestre National du Capitole à l'Allograin mercredi avec Elisabeth Leonskaya qui a joué avec l'ensemble toulousain le troisième concerto de Beethoven. Vous étiez comme moi, Anne-Marie Chouchon et bien sûr Thierry Dargoubet. Bon, je vais d'abord poser la question à Anne-Marie Chouchon. Quelles ont été vos impressions? Comment avez-vous apprécié ce concert et ce programme? Parce qu'en dehors de ça, il y avait aussi la 9e de Shostakovich et au début du concert, l'ouverture de Don Giovanni.
Oui, l'Orchestre du Capitole, c'était sa rentrée. Le programme n'était pas aisé, finalement, parce qu'aller de l'ouverture de Don Giovanni de Mozart, passer par le troisième concerto pour piano de Beethoven et terminer par la 9e de Shostakovich, qui a beau être courte, mais qui quand même a des exigences tout à fait différentes de Beethoven ou de Mozart. Et on a retrouvé un orchestre, comme toujours, en pleine forme, techniquement parlant, bien sûr, avec son chef, Tugan Sokiev, qui se meut avec aisance dans des répertoires très différents. Et la grande Leonskaya, qui est en train d'enregistrer ses concerts, l'intégrale de ses concertos à Toulouse et qui donc des concertos de Beethoven, voilà, et qui donc est égale à elle-même. C'est vraiment une grande dame du piano qui peut aussi avoir une grande puissance pianistique et puis en même temps nous faire rêver. Elle a un toucher toujours fabuleux. Elle interprète Beethoven comme un compositeur qu'elle connaît parfaitement, qu'elle pratique depuis toujours. Donc on ne peut qu'être ravi par une telle soirée. Quant à la symphonie Shostakovich, moi j'adore Shostakovich, mais cette symphonie qui est finalement très surprenante parce qu'elle a été composée en 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale et toutes ses horreurs, c'est une sorte de pied de nez qui a mis en colère Joseph Staline. Oui, parce qu'il s'attendait à quelque chose qui soit plutôt...
Tout entier à sa gloire.
À sa gloire, qui célèbre les armées, qui avait vaincu les Allemands, etc. Donc c'est une œuvre surprenante, même sur le plan du langage musical, parce qu'elle a des passages où elle donne la place aux instruments, notamment au bois. C'est très virtuose, et puis c'est difficile à jouer, et puis c'est grinçant parfois, ironique, c'est vrai. C'est pas étonnant qu'à l'époque où la censure était très, très agissante, ils n'aient pas trouvé ça conforme à leur idéal de musique à cette époque.
Thierry Dargoubet, même si vous n'êtes pas tout à fait neutre, bien sûr, vos impressions sur ce concert de rentrée de l'Orchestre du Capitole, moi je les ai trouvées aussi très en forme, et j'ai trouvé que l'osmose qu'il y a entre Tugan Sokiev et ses musiciens, ça a encore pris un cran supplémentaire, il me semble.
Moi d'abord, je dirais que j'ai vécu une belle émotion musicale. J'ai été touché par l'émotion musicale, par la grâce d'Elisabeth Leonskaya, qui est une artiste en fait très rare, tout à fait atypique, avec des sonorités, des phrasés qu'on n'entend nulle part. J'espère que le témoignage qu'on entendra avec ces 5 concertis de Beethoven prouvera définitivement. Donc au-delà de ça, c'est vrai, vous signalez, d'année en année, on voit un développement dans la relation quasi fusionnelle entre un chef et un orchestre. Et ça, vous savez, dans le monde musical, c'est une histoire unique. Je crois que c'est la 13e saison que Tugan entame avec son ancien
phalange. C'est la première.
C'est unique. Et le monde musical, d'ailleurs, nous envie énormément. Pourquoi ça marche, je ne sais pas. C'est l'alchimie d'une rencontre. Moi, j'emploierais un mot plus fort, si vous voulez. Il y a eu des fiançailles, et là, c'est un mariage. C'est un long mariage. Et on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. On ne sait pas. Je pense que tout est possible. Alors c'est vrai, l'Orchestre de Toulouse aussi, il a vécu une aventure assez incroyable avec le prédécesseur de Tugan Sokiev, hein, Michel Plasson, qui est resté à la tête de l'orchestre 37 ans. Alors c'est peut-être la marque de fabrique, l'ADN des Toulousains. Mais en tout cas, maintenant, on a un orchestre qui est, dans le monde musical, un orchestre très spécial, qui a une personnalité sonore unique, qu'il avait du temps de Michel Plasson. Il a une autre personnalité sonore. Et ça, aujourd'hui, le monde musical veut nous voir. Ça va à Tokyo, à Vienne, à Berlin, au Théâtre Colonne. Et les télés, maintenant, nous poussent vraiment pour pouvoir capter ces moments. Et donc là, hier soir, on a capté pour Medici.tv ce moment de grâce avec Lisa, ce moment assez intense dans la 9e symphonie de Shostakovich, que on avait déjà, les Toulousains ont déjà entendu d'ailleurs avec Valéry Gergiev et l'ensemble du théâtre Mariinsky, qui n'est pas une phalange, je dirais, de série B.
Oui,
de
régional.
mais ce que je disais à Tougan hier, j'ai dit, mais il y avait une densité différente et surtout une espèce de sens du détail et de la rythmique encore plus développée. Oui. L'orchestre de Toulouse, c'est devenu quelque chose de très spécial avec Tougan.
Qui était la jeune bassoniste?
Et alors, c'est une...
Estelle Richard.
Et Estelle Richard, qui a, d'ailleurs, que je voulais remercier, enfin, saluer, je ne l'ai pas rencontré, qui a été extraordinaire.
Ah oui, alors le public ne s'y est pas trompé.
Extraordinaire. C'est un solo de basson, évidemment, unique. Oui. Et alors, d'ailleurs, moi, je fermais les yeux et je voyais un bassoniste
costaud,
etc.
Une jolie jeune fille.
Et je rouvrais les yeux et je voyais Estelle, je me disais, ah, c'est incroyable, comment elle peut avoir cette sonorité-là?
Alors, on va vous beaucoup parler de l'Orchestre National du Capitole maintenant dans cette émission. Je veux juste préciser que l'Orchestre National du Capitole rejoue le 6 janvier avec Elisabeth Leonskaya. Concert, donc, il y aura le 4e concerto de Beethoven. Et puis donc, il y a l'enregistrement qui est prévu de tous les concertos de Beethoven. On en reparlera aussi dans cette émission plus tard dans la saison, je pense. Seconde partie de cette émission maintenant. On va parler de l'Orchestre National du Capitole d'abord, des prochains concerts, des temps forts de la saison. On parlera également de Tiefland, l'opéra d'Eugen d'Albert, qui s'annonce au Théâtre du Capitole en fin de semaine prochaine. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
La seconde partie de Mélomanie avec nos trois invités, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale du journal La Dépêche, Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et Thierry Darcoubet, délégué général de l'Orchestre National du Capitole.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de la semaine et des semaines à venir, c'est le retour aux affaires de l'Orchestre National du Capitole. Le concert de rentrée, c'était mercredi, nous venons d'en parler. Et l'orchestre va maintenant enchaîner les rendez-vous à la Halle au Grain, mais aussi dans la fosse du Théâtre du Capitole pour la saison d'opéra. Ça commence d'ailleurs dès vendredi prochain avec Tiefland, que nous évoquerons un peu plus tard dans cette émission. Thierry Darcoubet, on ne va pas faire le tour de la saison, ce serait trop long et fastidieux. Il y a tout de même quelques temps forts comme chaque année, des chefs et de grands solistes invités, des tournées à l'étranger, des concerts dans la région Midi-Pyrénées et Occitanie sans doute aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou qu'est-ce que vous avez envie de nous dire de ce millésime 2017-2018 ?
C'est réellement un exercice très difficile que vous me demandez parce que il y a 95 concerts qu'on a bâti très soigneusement. On rêve de ces concerts. Mais je dirais que peut-être un des événements, moi, qui me tient très à cœur, c'est la rencontre d'un chef qui est là depuis 2002, qui est venu chaque année, qui s'appelle Joseph Swensen. Il a fait la quasi-intégrale Malheur, fait beaucoup de symphonies Bruckner. Et là, je l'ai convaincu d'aborder un ouvrage français qui me tient très à cœur, qui est la 3e symphonie de Saint-Saëns. Et à cette occasion, on réinvite un chef que les Toulousains aiment bien, puisqu'il a participé à 2 concerts ou 3 concerts du Nouvel An. Il s'agit de Wayne Marshall, qui est un organiste absolument magnifique, que j'avais découvert grâce à Michel Bouvard, qui nous avait ouvert les portes de la basilique Saint-Sernin. Et j'avais eu, donc, pendant une heure avec Michel, qui était éberlué, des improvisations absolument extraordinaires de l'organiste Wayne Marshall. Donc ça, c'est un concert qui tient à cœur, qui se passe d'ailleurs dans le cadre du Festival Toulouse des Orgues.
C'est bientôt, d'ailleurs. Bientôt.
Alors, avec un orgue qui sera un orgue numérique, puisque nous n'avons pas d'orgue de la loi, mais ça sera comme s'il y avait un orgue magnifique.
C'est le 13 octobre, ce concert.
Ça, c'est le 13 octobre. Mais avant, une découverte que finalement, le Toulousains ont vu, c'était au mois de juin dernier, c'est Maxime Emelianichev, un jeune musicien poteriforme absolument génial, qui est russe, qui est le directeur musical de l'ensemble In Pomodoro. et qui va donc diriger la symphonie écossaise de Mendelssohn avec un pianiste assez rare qui s'appelle Richard Good, qui est un immense poète
du clavier
très classique.
Alors ça, c'est le 5 octobre, donc c'est le prochain concert en fait de l'orchestre.
Et ça, c'est le mariage, c'est la rencontre entre un artiste très spécial, Maxime, hein, mais Yanichev, très jeune.
Quel âge a-t-il ? Il est vraiment tout jeune.
Il a 27 ans.
C'est
il a 27 ans, il est claveciniste, il est pianiste, il joue de la trompette, du bugle, il est assez extraordinaire.
Et c'est lui qui avait dirigé, excusez-moi, le concert pour la recherche du Rotary.
Voilà. Et Robert était présent, vous en aviez parlé.
Et Robert avait été la cheville ouvrière de ce projet.
Effectivement, aviez proposé ce jeune chef et il nous a joué une 7e de Beethoven qui paraissait venir de la planète Mars. Jamais, personnellement, je n'avais entendu une pareille 7e avec un tel rythme tout à fait nouveau. Il a un dynamisme, il a une originalité, une gentillesse aussi, j'ai l'impression. Et vraiment, je suis ravi que vous le fassiez revenir parce qu'il compte maintenant, malgré son jeune âge, il compte vraiment maintenant dans la galaxie des jeunes chefs au niveau mondial, je crois. Et les chanteurs d'opéra l'adorent aussi.
Eh bien, dites donc. Il a toutes les qualités, ce garçon.
Il a fait ses débuts à l'Opéra de Zurich l'année dernière, donc il est invité en fait dans les plus grandes scènes. J'espère d'ailleurs qu'on le reverra au Théâtre du Capitole dans un ouvrage qui lui convient, ça j'en suis à peu près sûr, parce que Christophe Rissi, le nouveau directeur artistique, est très attaché aussi à ce que l'orchestre puisse travailler avec des directeurs musicaux qui... quand le musicien aime le directeur musical de l'ouvrage, c'est évidemment très important. Après, évidemment, il y a tous les concerts Tougan qui sont là. Donc, il y aura deux autres symphonies de Shostakovich le long de la saison. Des chefs... on ne va pas parler des dates.
Les chefs invités, j'ai vu, il y en a 16, des chefs invités.
Oui, alors, il y a ceux qui ont une belle relation avec l'orchestre. Je pense également à Joseph Pons, notre ami Joseph Pons. Le sorcier catalan, si vous voulez, qui d'ailleurs fait une deuxième carrière dans le monde musical, qui est extrêmement demandé, mais qui adore Toulouse.
Et qui, je sais, est très apprécié des musiciens.
Qui est très apprécié des musiciens. Je pense à Thomas Sandergaard, qui a aussi une belle relation. Andris Poga, qui avait dirigé justement la 12e symphonie de Shostakovich l'année dernière, au mois de juillet, qui est un chef extrêmement intéressant, avec une technique magnifique et un bras et une sonorité d'orchestre assez incroyable.
Il vient plusieurs fois cette saison.
Il vient deux fois. Je pense aussi à un jeune chef dont les musiciens sont tombés tout simplement fous, c'est Lahav Chani, qui vient de succéder d'ailleurs à Yannick Nézet-Séguin à l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam. Alors lui, il n'est pas dans la saison, on le verra au mois de juillet, pour le festival de Radio France Montpellier et de Pérelada. Malheureusement pas à Toulouse, parce que là, le Grain sera fermé à ce moment-là. Donc on va pas passer en revue tous les chefs.
Non, mais j'ai vu dans ceux qu'on a déjà vus, voilà, il y a Kazuki Yamada, Bruno Mantovani.
Alors Yamada, lui, c'est un toucher d'orchestre très très particulier. Et il comprend les sonorités de l'orchestre de Toulouse. Et d'ailleurs, quand il est là, j'arrive à réentendre ce que Plasson pouvait produire dans les sorties de musique française. Il y a deux très jeunes chefs dont on attend beaucoup. L'un a 21 ans, c'est un Finlandais, Klaus Mäkelä, qui viendra pour un concert, je crois que c'est Happy Hour. Et également un jeune chef de Hong Kong pour un autre Happy Hour, qui a gagné probablement la compétition d'orchestre, enfin le concours d'orchestre le plus réputé, qui est le concours à Bamberg, Gustave Mahler. Gustave Dudamel, évidemment, a été un lauréat il y a quelques années. Lahav Chani, dont je viens vous parler. Donc ça, c'est important.
Le jeune chef coréen,
Kachung
Wong, voilà. C'est ça.
Et notre hautbois solo, enfin nos deux hautbois solo, justement est issu de Hong Kong, et il lui tarde beaucoup, évidemment,
de retrouver son compatriote
de Hong Kong.
Alors, ça, ce sont les chefs, mais il y a aussi, bien sûr, de grands solistes qui sont invités chaque année. Vous avez cité Richard Good et Wayne Marshall. Il y en a d'autres.
Oui, on pense à Vladimir Repin, Bye Bye Scride, Fazil C, Edgar Moreau,
Bertrand Chamaillou.
La participation du Chœur du Capitole pour le Sabbat Mater de Rossini avec un autre chef dont on attend beaucoup, qui est plutôt un chef lyrique. Il s'agit de Giacomo Sacribanti, qui œuvre de temps en temps à l'Opéra de Paris et au Covent Garden. On pense à Roger Moirot, à un pianiste russe que Catherine Dargoubet d'ailleurs avait invité à Piano Jacobin, Andrei Korobeynikov, qui est un artiste très attachant.
Alors j'ai vu qu'il y avait le retour à Toulouse de François-René Duchâble aussi.
François-René Duchâble, que nous aimons particulièrement ne peut revenir que pour des projets, on va dire, très particuliers.
Oui.
Projets plutôt à vocation humanitaire. Et donc, François René sera là pour aider à lever des fonds pour l'association Marie-Louise, donc au mois de décembre fin prochain. Il interprétera le concerto de Tchaïkovski avec un jeune chef anglais magnifique aussi qui s'appelle Ben Gernon.
Et il y a Sergueï Khatchatryan aussi. Et bon, alors quand on aime le beau violon, Khatchatryan, il ne faut pas rater.
Alors après, il y a des projets aussi particuliers. Bon, il y a le projet pédagogique. Hein, on donne une douzaine de concerts pédagogiques, 5 concerts pour les familles. Projets qui sont menés par Christophe Mangou. Mais aussi des projets pour ouvrir l'orchestre à de nouveaux publics. Et donc cette année, on va continuer une expérience avec Jeff Mills. Mais on va aller un peu plus loin. Jeff Mills va créer une œuvre qui s'appelle « Perdu dans l'espace ». C'est un artiste très intéressant, en fait, qui s'est nourri justement des compositeurs minimalistes.
Américain.
Parlait tout à l'heure. Il connaît bien Philip Glass, il adore John Adams, il aime beaucoup Steve Reich. Et donc, il y a eu une rencontre entre lui et l'orchestre. Donc, on va prolonger au travers de cette création qui s'appelle Perdu dans l'espace, parce qu'il est vraiment fou d'espace. Et on mettra ceci, si vous voulez, en œuvre avec une scénographie particulière qu'on va confier à Yves Pépin, qui était une personne qui a fait la création, la scénographie des Jeux Olympiques de Moscou et de l'Expo universelle à Shanghai. Et puis enfin, notre ami Jean-François Gigel, qui va, lors de 3 concerts, essayer d'être le passeur de certaines œuvres musicales. Alors, je ne peux pas trop vous dire le contenu de ce projet, parce que Jean-François continue à réfléchir. En tout cas, c'est un projet que l'on fait avec l'orchestre et qui intéresse d'ailleurs toutes les télévisions françaises.
Voilà, donc ce sera une heure avec Jean-François Gigel. Il y a 3 rendez-vous dans l'année. Je pense qu'on peut parler aussi, il y a 2 tournées à l'étranger qui sont prévues. Alors, parlez-nous
alors
un peu
ça,
de ces tournées.
Oui, ça, c'est une des missions, enfin, à mes yeux, il y a celle de Tougan Sokiev, les plus importantes de l'orchestre. Je pense aux yeux aussi de la métropole et de son président, Jean-Luc Moudin. C'est l'orchestre qui est ambassadeur de Toulouse. L'orchestre rayonne 2 ou 3 fois par an dans des contrées, parfois qu'on ne connaissait pas. Là, on part en Amérique du Sud, Théâtre Colonne pour 2 concerts, à Sao Paulo pour 2 concerts, à Montevideo, à Rio. Et on fait un travail vraiment très en profondeur parce qu'on travaille beaucoup avec les ambassades, avec les instituts français et on fait beaucoup de rencontres, parfois avec les musiciens. Mais en tout cas, on dit très fermement et très fortement, voilà, la ville de Toulouse, la métropole toulousaine, a un orchestre magnifique et on représente la France et on représente la métropole. Et au-delà de ça aussi, il y a l'alliance de l'excellence aéronautique et économique de Toulouse, puisque Airbus nous accompagne très souvent maintenant lors de ces opérations à l'étranger. Donc je dois dire, c'est évidemment un grand bonheur parce que voilà, en tant que Toulousain, on a la fierté de voir un orchestre et de voir Airbus faire des très belles opérations de relations publiques pour tenter de vendre un peu plus d'avions.
C'est vraiment la vitrine industrielle et culturelle de la métropole toulousaine, l'orchestre et Airbus, connus dans le monde entier les deux.
Voilà. Et au-delà de ça, pour que ça se sache un peu plus au niveau international, très souvent, on est accompagné par une chaîne de télévision. Là, il s'agira de Medici.tv qui captera les concerts au Théâtre Colonne. Enfin, les 2 concerts au Théâtre Colonne, donc 2 programmes, pour dire, voilà, Toulouse a une vraie dimension internationale.
Donc la tournée Amérique du Sud, c'est bientôt, c'est du 23 au 31 octobre, et puis il y en aura une au Japon au tout début du printemps.
Au mois de mars, où il y aura 6-7 concerts, dont 3 concerts à Tokyo, dans la fameuse salle du Saint-Euryol de Tokyo, qui est probablement une des salles les plus intéressantes au Japon, qui a été construite par un grand acousticien qui s'appelle Toyota. Et d'ailleurs, à cet égard, l'autre dimension de ces déplacements, c'est de permettre à l'orchestre de pouvoir montrer ce qu'ils sont capables de faire. Parce que là, Lohengrin, c'est une salle formidable sur le plan de la convivialité, du rapport entre le public et la salle. Mais c'est vrai que sur l'acoustique, on voit bien, on est
un peu contraint.
On est vraiment contraint. Et donc voilà, le développement sonore de cette phalange
prend toute sa dimension.
Une dimension absolument exceptionnelle dans des salles comme la Philharmonie de Paris.
Où vous jouerez d'ailleurs cette saison encore. Il y a 2 concerts,
oui,
je crois.
Il y a toujours 2 ou 3 concerts par an à la Philharmonie de Paris. Ça, c'est la volonté du président de la Philharmonie, Laurent Bayle, d'accompagner le développement de l'orchestre. Et ça, il le fait depuis 10 ans. Il nous a énormément aidés. D'ailleurs, je salue sa vision parce qu'au départ, c'était pas évident pour lui de choisir cette phalange régionale avec son chef russe.
Alors vous parlez de phalange régionale, on a parlé des tournées internationales, mais l'Orchestre du Capitole se produit aussi dans la région, ex-région Midi-Pyrénées.
Ben, nous avons une mission, nous avons une convention avec la région, enfin anciennement Midi-Pyrénées, maintenant Occitanie. Et donc nous devons d'irriguer le territoire et il y aura cette année une douzaine de concerts. Donc 6 ou 7 sont déjà prévus dans la brochure, mais on a d'autres temps, si vous voulez, au printemps ou pendant une semaine, on va en région et au mois de juillet aussi. On rayonne dans la grande région Occitanie puisqu'on va jusqu'à Perpignan, à Montpellier, à Millau.
Alors moi je vais citer les concerts qui sont déjà prévus dans la région et comme on nous écoute dans le Tarn-et-Garonne, dans l'Aude, dans les Hautes-Pyrénées et dans le Tarn. Donc il y a Montauban le 28 septembre, Saint-Céré le 6 octobre, Castres le 7 octobre, Tarbes deux fois le 17 février et le 1er avril, et il y a également un concert à Tournefeuille dans la métropole toulousaine. Vous avez parlé tout à l'heure de Shostakovitch et de la 12e symphonie qui sera jouée d'ailleurs par l'Orchestre du Capitole lors du concert du 5 mars. Vous savez que cette symphonie a un sous-titre, Octobre 1917. Dans quelques semaines, ce sera le centenaire de la Révolution d'octobre. Bon, un événement que certains vous considéreront comme heureux, d'autres moins. Il n'en reste pas moins que c'est quand même un des événements les plus importants du XXe siècle qui a inspiré de nombreux artistes. Évidemment, Eisenstein pour le cinéma pour son film Octobre et Shostakovich pour cette symphonie numéro 12 que nous allons écouter maintenant, interprétée par l'Orchestre National du Capitole. La 12e symphonie de Dmitri Shostakovitch, octobre 1917, interprétée par l'Orchestre National du Capitole, qui, je le rappelle, la jouera lors du concert qu'il donnera le 5 mars prochain. Alors, on va terminer donc avec l'actualité, la saison de l'Orchestre National du Capitole, pour passer maintenant à l'actualité lyrique, puisque la semaine prochaine, le vendredi 29, c'est la première de Tiefland, l'opéra d'Eugen d'Albert au Théâtre du Capitole. Il y aura 4 autres représentations jusqu'au 8 octobre, et l'Orchestre National du Capitole sera dans la fosse sous la direction de Klaus-Peter Flor. Robert Pénavert, monsieur opéra à Toulouse, avant qu'on parle de Tiefland, est-ce que vous pouvez nous présenter son compositeur, cet Eugen d'Albert, plutôt méconnu de nos jours, écossais avec un nom français, né à Glasgow en 1864 et mort à Riga en Lettonie, on parlait d'Andris Poga, en 1932, auteur de pièces pour piano, de musique de chambre, d'opéra dans Tiefland, et qui fut d'abord un des grands pianistes de son temps, renommé pour sa virtuosité. Donc, curieuse trajectoire et drôle de personnage qui eut rien moins que 6 épouses, c'est pour l'anecdote. Mais à part ça, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Bon, il va falloir que je cherche quelque chose d'autre à dire. Alors, effectivement, c'est un peu une multinationale, ce compositeur, parce qu'effectivement, il est né à Glasgow. Sa maman était anglaise. Son papa était allemand d'origine franco-italienne. Et en fait, très rapidement, il est, malgré qu'il ait fait des études extrêmement brillantes au Royaume-Uni, il est parti s'exiler en Allemagne, où son prénom, d'ailleurs, est devenu Eugen. Donc voilà, tel qu'il le souhaitait. Effectivement, comme on l'avait dit, très justement, il a été l'élève de Franz Liszt, de Johannes Brahms, et évidemment, il a été fortement influencé par son contemporain de Puccini. Il a été influencé par Richard Wagner, puisqu'il emploie dans ses opéras, il en a écrit 20, mais dont très clairement, il y en a deux qui sont encore programmés, le Tiflan, qu'on va voir en ouverture de saison, et un autre qui s'appelle Die Tote Augen, qu'on peut traduire par les yeux morts. C'est pas très vendeur comme titre, mais enfin bon, j'ai aucune idée de ce que
Peut-être qu'en allemand, ça passe mieux.
Voilà, j'ai aucune idée de ce que cet opéra, mais enfin, je crois qu'il est quasiment jamais donné. Donc, en définitive, voilà, Jean d'Albert, de fait, je sais si ce sont ses racines qui font que pour les musicologues, ce n'est pas un compositeur important. Parce qu'effectivement, on retrouve dans sa musique des traits de Wagner, je le disais, les leitmotifs, l'emploi des leitmotifs, mais pas que. On retrouve dans son opéra Tiflan, qui est le plus connu, les accents du vérisme italien. Alors évidemment, comme ce n'est pas italien, on parle de naturalisme ici. On peut retrouver également dans sa musique des accents slaves. On peut dire que c'était une véritable éponge à tout un tas d'influences. Voilà ce que c'était Eugène d'Albert. Alors effectivement, il a composé, c'était un grand virtuose du piano. Il a composé des concertos pour piano.
Des pièces
pour soliste, pour piano. Il a également composé 58 mélodies, rien que ça. Et puis, je disais tout à l'heure, c'est cette vingtaine d'opéras. Voilà. Or, c'est vrai qu'il a eu 6 femmes, il a eu 8 enfants, il a eu une vie personnel extrêmement riche, nourri. Mais si vous voulez bien, on va parler de Tiflan maintenant.
Voilà, maintenant, je pense que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas Eugen d'Albert, donc c'était bien d'en dire quelques mots. Maintenant, effectivement, il faut parler de son œuvre et de Tiflan.
Voilà. D'ailleurs, en dehors de Tiflan, je posais la question à Thierry Dergoubet il n'y a pas très longtemps. Il me dit, moi, je ne me souviens pas d'avoir programmé Eugen d'Albert dans la programmation de l'Orchestre du Capitole.
Ni son concerto pour piano, ni quoi que ce soit d'autre.
Alors, Tiflan, revenons à Tiflan, parce que c'est quand même un peu bizarre, et puis normalement ça doit nous interpeller directement. Pourquoi ça doit nous interpeller directement? Parce que tout simplement, cet opéra, bien qu'il soit composé évidemment en allemand, eh bien en fait le livret est inspiré d'un roman écrit en catalan, et Tiflan ça veut dire les basses-terres, hein, et en fait ça se passe pas très loin de chez nous, dans les Pyrénées. Alors quand on parle de livret naturaliste, il n'y a qu'à suivre les péripéties de cette histoire. Alors le premier acte se passe au sommet des Pyrénées, on fait connaissance avec Pedro, un berger qui garde ses vaches, hein, tout simplement. Et il va être appelé à redescendre dans la vallée pour avoir un entretien avec le maître, le grand propriétaire terrien du coin, Sebastiano, qui est un baryton. Évidemment, Pedro, c'est un ténor. Bien évidemment. Et alors, le Sebastiano en question va proposer quelque chose d'assez sordide, en fait, à Pedro. Il va lui dire, voilà, c'est un homme riche, Sebastiano, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme d'autorité. Recommandable, ça, c'est autre chose. Mais il va lui dire, voilà, tu vas épouser ma maîtresse, Martha. Et il va épouser cette femme, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il veut garder sous le coup de sa maîtresse, Martha, parce que Sebastiano a dans l'idée de se marier avec une très riche héritière, qu'il n'aime pas du tout, mais bon. Vous avez bien compris, riche, héritière, ce que ça veut dire.
Un mariage de raison, voilà. Pudiquement.
Mais en fait, Pedro, qui lui descend de son nuage, il ne sait pas que Martha est la maîtresse de Sebastiano. Et donc, ce qu'on appellerait trivialement l'innocent du village, qui arrive et il se trouve dans une femme magnifique, évidemment. Lui, qui vit un peu isolé toute l'année, eh bien, il en tombe amoureux et il se marie sans savoir dans quel piège il est tombé. Bien évidemment, il va l'apprendre après le mariage. Évidemment, il va se demander qu'est-ce qui lui tombe dessus et il va demander quelques explications à Sebastiano. Ça va se finir très mal puisqu'il va l'étrangler, le tuer. Vous savez, on est un peu dans le triptyque puccinien, on est dans Il Tabarro, c'est exactement ça. Il va le tuer, l'étrangler sur scène, dans une scène absolument dramatique. Et puis Martha, qui finalement a pris pitié de ce pauvre berger, a un sentiment pour lui. Et lorsque le berger lui dit « Viens avec moi dans mes montagnes », mais ils partent tous les deux, la main à la main, ils retournent, alors c'est complètement moral évidemment, hein, mais ils retournent dans leur montagne tous les deux. Voilà le livret de cet opéra.
Alors, ce qui est particulier, je crois que c'est le seul de la vingtaine d'opéras composés par Eugen d'Albert qui se passe ailleurs qu'en Allemagne.
Ailleurs qu'en Allemagne, oui. Et ça se passe pas très loin de chez nous. Alors, pour chanter cet opéra, nous le disions tout à l'heure, il faut des formats allemands. Ça veut rien dire. Des formats wagnériens. Voilà. Donc, pour chanter Pedro, alors nous allons assister à trois prises de rôle pour les rôles principaux. C'est Pedro, Martha et Sebastiano. Trois prises de rôle. Les chanteurs viennent pour la première fois à Toulouse chanter ce rôle. Alors ça, je fais une digression là-dessus parce que c'est important. La qualité des équipes du Capitole, de l'orchestre du Capitole, des chœurs du Capitole, des répétiteurs du Capitole, font que de nombreux chanteurs tiennent à faire des débuts à Toulouse. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les équipes qui les entourent le mieux possible et surtout qui leur donnent le temps pour répéter ces rôles avant de les affronter en public. Je ferme la parenthèse. Donc, nous avons Nikolai Choukov, qui est un ténor russe. Autrichien.
Oui, autrichien.
Un ténor autrichien.
Avec un nom russe.
Que nous avons déjà vu à Toulouse en 2010. C'est lui qui chantait Jim Mahoney dans Grandeur et décadence de la vie, Agonie. Et en 2014, il chantait Tourido dans le diptyque Cavalleria Rusticana. Payas, voilà. Et donc, c'est un des grands wagnériens de notre temps, puisque son rôle signature, c'est Parsifal, qui chante un peu partout. Pour chanter Sebastiano, ce méchant propriétaire terrien, c'est un baryton allemand qui, lui, a dans sa carrière vraiment un grand éventail de rôles, qu'il soit wagnérien, mozartien, il chante également Verdi, et il chantera pour la première fois Sebastiano, il s'appelle Marcus Bruck. Et pour chanter enfin Martha, cette pauvre femme ballottée entre deux hommes, nous allons faire connaissance avec Megan Miller, qui est une américaine et une wagnérienne. Alors, une wagnérienne qui chante plutôt les sopranos blonds que les sopranos dramatiques type Brunhilde. Elle chante plutôt Sieglind. À son répertoire, elle a également tous les grands opéras de Richard Strauss. Donc, je pense que ça va être évidemment très intéressant de la découvrir. La mise en scène est de Walter Sutcliffe, que le Capitole connaît parce que Frédéric Chambert lui avait confié la mise en scène de l'entrée au répertoire du Capitole de deux opéras de Benjamin Britten, qui sont Owen Wingrave et Le Tour des Croûts. Voilà.
Alors, si vous permettez, je voudrais que maintenant qu'on écoute un extrait tout de même de Tiefland, parce qu'il faut qu'on écoute de la musique dans cette émission. Alors, c'est un duo. L'air, c'est Zonim, Das Geld, ich schenke es dir. Les germanistes traduiront. On écoute tout de suite cet extrait de Tiefland.
Nimm das Geld, ich schenke es dir.
Nein, ich nehme es nicht. Und nun gute Nacht, dort hast du deine Kammer. Geh
in meine Kammer, nun scherz es wohl du, denn unsere Kammer, die ist da.
Ich scherze nicht, lass mich allein.
Dass ich, ist das dein Ernst?
Zum Reden zwing mich nicht, sonst müsst ich sagen, aus Zehner schwer mein Herz belastet. Ich will nicht reden, sonst müsst ich dir sagen, was du mit der Tod, du ist das Herz.
Voilà, Zonim, Das Geld, ich schenke es dir, un des airs de Tiefland, le duo entre le baryton et donc la soprano. Est-ce qu'il y en a d'autres, des grands airs qu'on peut sortir du lot dedans? Il y a l'air du ténor, notamment, de
oui,
Pedro.
Oui, il y a l'air de Pedro, le premier, l'air d'entrée, on définit l'air du prologue. Hein. Puis il y a l'air du baryton, mais de manière très classique. Chaque grand rôle a un air, a une scène.
Voilà, bon, donc ça, c'est Tiefland. Alors, j'aurais voulu qu'on parle un petit peu de piano jacobin. Il nous reste très peu de temps pour la semaine qui vient. Ce sera la dernière semaine du piano jacobin. Oui, Robert, vous vouliez ajouter quelque chose.
Mais peut-être c'est inutile de le préciser, mais évidemment, c'est la création à Toulouse de cet opéra. Ça n'a jamais été donné.
Ça n'a jamais été donné à Toulouse, hein, ce sera la première fois. Donc, je reviens à piano jacobin. Est-ce que vous avez noté, Anne-Marie Chouchon, quelques concerts?
Tous,
voilà. Bon.
Il y a beaucoup de concerts, oui, toujours des jeunes pianistes. C'est vrai, cette année, il y a beaucoup de belles révélations. On ne retient pas forcément le nom de tous, mais je crois que selon, on peut piocher et avoir là l'affiche et avoir de très belles révélations. Et puis la clôture, donc avec Angelich, Nicolas Angelich, qui est un fidèle des Jacobins, puisqu'il a débuté, hein, il était très jeune, hein, aux Jacobins. Oui. Et puis demain soir, il y a, comment s'appelle-t-il
Arkady Volodos.
Arkady Volodos. Voilà, parmi
ce vendredi soir, à 20h.
À 20h, voilà.
Arkady Volodos,
qui est déjà venu et qui revient, voilà.
Programme Schumann, Schubert, voilà, oui. L'autre m'échappe, mais ça me reviendra, voilà, donc ça c'est Arkady Volodos.
Et puis la semaine prochaine, il y a la soirée, le concert de jazz à la Halle au Grain.
Chili González, le jeudi 28 septembre. Lundi, il y a François Dumont.
Une soirée un peu déjantée.
C'est possible. En tout cas, je crois qu'il est très attendu ce concert. François Dumont, lundi, au Jacobin, jouera un programme entièrement Bach. Il y a le chorégraphe toulousain Pierre Égal qui donne un spectacle à Saint-Pierre-des-Cuisines le mardi 26 septembre, toujours amateur. La jeune pianiste germano-grecque Danae Dorken, ça c'est le mercredi 27 au Jacobin, Chili González donc le jeudi 23. Et pour terminer, concert de clôture de Nicolas Angelich le vendredi 29 septembre. Eh bien, merci infiniment à tous les trois pour votre participation à ce numéro. On se revoit bientôt avec Anne-Marie Chouchon et Robert Pénavert, membres éminents de la famille des chroniqueurs de cette émission où on devrait souvent les entendre. Très bonne saison à vous Thierry Dargoubet et à l'Orchestre National du Capitole dont vous pouvez consulter les dates et les programmes des concerts sur son site www.onct.toulouse.fr. Le prochain concert c'est le jeudi 5 octobre à 20h à la Halle au Grain avec Maxime Emelianitchev à la direction et Richard Good au piano. Je rappelle également la première de Tiefland, l'opéra d'Eugen d'Albert le vendredi 29 septembre à 20h. Il y a 4 autres représentations jusqu'au dimanche 8 octobre et je vous invite également à consulter le site internet du Théâtre du Capitole pour avoir tous les détails de la programmation et réserver vos places www.theatreducapitole.fr. La régie technique de cette émission était assurée par Christophe Aubry. Vous pouvez réécouter ce numéro en podcast dès aujourd'hui en le téléchargeant sur le site de Radio Présence. Je précise que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine musicale.